Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine. Émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Kiaran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son, Bruno Gagnard-Fontanille. C'est désormais acquis, la gauche, en tout cas la gauche au pouvoir, est définitivement réconciliée avec le monde de l'entreprise. Mais les Français, eux, se font encore tirer l'oreille. Et parmi les mauvais élèves, il y a l'école, justement. Raison pour laquelle, depuis quelques années, l'Éducation nationale et le MEDEF unissent leurs efforts pour faire entrer l'entreprise au sein des établissements scolaires, si ce n'est entre ses murs, du moins dans la tête des élèves et des enseignants. Ce lundi, démarrait la 15e semaine école-entreprise, l'idée étant, pour reprendre ce qu'en disait Jean-Marc Ayrault à l'époque, d'instaurer un dialogue indispensable pour mener le combat pour l'emploi. Vincent Peillon, alors ministre, voulait lui engager l'Éducation nationale dans le redressement productif. Mais laissons plutôt la parole au chef de l'État. Stimuler l'entreprise, c'est d'abord le rôle de l'école. François Hollande, 29 avril 2013. Alors à cet effet, le Conseil National Éducation Économie, le CNEE, était installé il y a un an environ, un collectif qui réunit des patrons, des représentants de salariés, de profs, et ayant justement vocation à faire dialoguer ces deux mondes qui semblent si bien s'ignorer. Mais jusqu'où pousser le dialogue? Et n'est-ce pas une façon de considérer l'école comme un simple vivier d'individus immédiatement employables? L'école doit-elle inculquer l'esprit d'entreprise? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, je reçois ce soir Sabine de Beaulieu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la déléguée générale de l'association Jeunesse et Entreprise, l'AJE, association créée et présidée par Yvon Gattaz, le père de Pierre depuis 1986. Enfin, il n'est pas père de Pierre depuis 1986. Il préside l'association depuis cette date. Vous êtes un des acteurs, l'AJE, de cette semaine école-entreprise. Pour discuter avec vous, Arnaud Parianti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales en région parisienne, dans un lycée, dans quelle ville?
À Neuilly, au lycée Pasteur.
Dans les Hauts-de-Seine. Vous avez participé à l'élaboration de manuels scolaires aux éditions Nathan, puis vous tenez un blog sur le site d'Alternatives économiques.
Oui, je fais de nombreux articles aussi, mais pour Interéco. Oui.
Notre troisième invité, Myriam Bénac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes inspectrice générale de l'éducation nationale depuis septembre 2013, ai-je vu. Vous avez été membre du groupe des inspecteurs d'académie en économie-gestion de l'Académie de Versailles. Ça veut dire quoi?
J'ai été en fait inspectrice pédagogique régionale pendant 4 ans, en effet, au sein de l'Académie de Versailles.
Donc. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous trois pour évoquer donc cette semaine école-entreprise, 15e édition. Tiens, Arnaud Parianti, est-ce que vous avez été sollicité pour participer à cette semaine, puisque l'idée, c'est de faire dialoguer l'école et l'entreprise?
Et je vais vous faire une confidence. Avant d'être invité à cette émission, j'ignorais l'existence de cette semaine. Cela dit, la préoccupation des relations avec les entreprises n'est ni nouvelle ni étrangère pour nous. Moi, j'enseigne les sciences économiques et sociales, donc on a l'entreprise dans nos programmes. Et puis, de toute façon, il existe de nombreuses associations. C'est vrai à Neuilly, c'est vrai à Courbevoie où j'enseignais avant, c'était vrai à Villeneuve-la-Garenne, c'est vrai un peu partout, que ce soit à travers le Rotary, le Lions Club, etc. Il y a de nombreuses associations qui proposent les services de leurs membres, qui envoient des conférenciers avec lesquels on peut travailler. Il m'est arrivé aussi d'avoir la chance que le DRH d'une assez grosse unité accepte que nous venions à plusieurs reprises dans les locaux de l'entreprise, ce qui n'est pas si fréquent, donc ça n'est pas quelque chose de très original pour nous.
Donc vous n'aviez pas forcément besoin de cette semaine pour vous intéresser au monde de l'entreprise. Cela dit, Sabine de Beaulieu, est-ce que ça vous étonne qu'Arnaud Parianti n'en ait entendu parler qu'à la faveur de cette émission?
Un petit peu, parce que je pensais que c'était plus largement connu. C'est quand même la 15e édition, elle est très active sur le terrain, les rectorats la poussent, mais peut-être que ça ne concerne pas directement les enseignants de sciences économiques et sociales, ça concerne plutôt les professeurs qui encadrent la découverte professionnelle au collège ou le PIONMEP, ou qui accompagnent les jeunes, qui sont impliqués dans les établissements.
Alors disons tout de suite ce que c'est que le PIONMEP, hein, et pour que ce soit clair
justement
pour les auditeurs.
C'est, je vous laisse l'expliquer.
Alors Myriam Bénac, ben voilà, c'est
Alors, le PIODMEP est un acronyme qui recouvre donc un ensemble de mots qui sont le parcours individuel d'information, d'orientation, de découverte du monde économique et professionnel.
Alors, découverte du monde économique. Alors d'ailleurs, tiens, allons justement tout de suite là-dessus, Myriam Benac. Bon, alors, l'éducation nationale essaie d'entreprendre un certain nombre d'initiatives depuis quelques années pour faire se connecter l'école et le monde. Alors, est-ce que c'est quoi ? C'est le monde de l'entreprise essentiellement ou bien c'est le monde économique qui ne recouvre pas uniquement le monde de l'entreprise.
Alors, il faut quand même rappeler que l'article 1er du Code de l'éducation prévoit que le droit à l'éducation est garanti à chacun, afin notamment de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. Donc, s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous nos élèves, demain, après-demain, vont travailler dans une organisation, quelle qu'elle soit, pas forcément uniquement une entreprise, une administration, une association, et que par conséquent, ils devront faire preuve d'esprit d'entreprendre. Et c'est surtout ça qui nous intéresse et qui va nous intéresser dans le cadre de toutes les actions que nous menons aujourd'hui pour développer cet esprit d'entreprendre.
Sauf que moi, je suis allé sur le site du ministère de l'Éducation nationale qui évoque cette semaine et qui dit qu'il faut sensibiliser les collégiens et les lycéens au monde de l'entreprise. Est-ce que, malgré tout, ça signifie que l'éducation nationale a peut-être un déficit de compréhension de ce qu'est l'entreprise, Sabine de Beaulieu?
Nous ne le pensons pas parce que nous, le succès de cette démarche de rapprochement entre les jeunes, les enseignants et le milieu professionnel ne tient que par la volonté des instances de l'éducation nationale de développer cet état d'esprit et cette culture. Et pourquoi développer...
Enfin, en même temps, si vous ne le pensez pas, ça sert à quoi de faire une semaine comme celle-là? Ça veut dire, si le niveau de compréhension et de connaissance est optimum,
non, c'est pas au niveau de connaissance, plus au niveau de la relation ou de l'image que s'en font les enseignants. Les enseignants avec lesquels nous travaillons, puisque c'est notre cheval de bataille, c'est de travailler en étroite coopération avec l'éducation nationale pour aider les jeunes à découvrir l'entreprise, son mode de fonctionnement, le milieu professionnel, pour essayer de les éclairer dans leur orientation. Donc il y a ce travail très actif, mais ça n'empêche que cette semaine école-entreprise, une fois par an, met le doigt sur ce constat qu'il faut absolument renforcer ce jour-là, toutes les actions, les faire connaître, etc. Nous, par exemple, on est sur le terrain. Avant tout, nous sommes des acteurs de terrain. Nous sommes une association d'entreprises à la base. En camp Normandie, on est présent à l'université pour ça. En Champagne-Ardenne, il y a une immersion des enseignants aujourd'hui. C'est un temps fort. Un temps fort dans une année où il y a beaucoup d'autres actions. Dans le Rhône-Alpes, on va faire se rencontrer des chefs d'entreprise et des jeunes et des enseignants. Dans le Finistère, il y a une action par jour. Donc, on est très mobilisé depuis toujours sur ce sujet. Mais ça, c'est un peu un entraînement à aller plus loin dans la démarche et à développer des actions tout au long de l'année.
Arnaud Parianti.
Oui, si vous voulez, en fait, il y a un malentendu sur ce sujet-là qui remonte à quelques années déjà. C'est-à-dire que de temps en temps, on voit arriver une espèce de brûlot. Il y a de manière un peu idéologique des gens qui font le procès à l'éducation nationale en général, aux sciences économiques et sociales en particulier, de présenter négativement le monde de l'entreprise, de mettre beaucoup trop l'accent sur les conflits, sur les difficultés et d'ignorer les aspects positifs, etc.
Et c'est par exemple ce que disait Pierre Gattaz il y a un peu plus d'un an au moment des sujets du bac. Il disait « Ma fille vient passer le bac de sciences éco » et le sujet qui lui a été donné, c'était « Vous montrerez de quelle manière les conflits sociaux peuvent être facteurs de cohésion sociale. » Il disait « Mais comment c'est possible d'avoir une vision si caricaturale du monde de l'entreprise au XXIe siècle ?»
Oui, alors effectivement, j'ai redonné cette citation à mes élèves quand j'ai retraité cette question il y a une quinzaine de jours, parce qu'elle est intéressante. Et elle montre bien effectivement le besoin de sciences économiques et sociales, parce que là, c'est un contresens tout simple. Voilà, Durkheim, qui est un grand sociologue, qui n'est pas précisément un gauchiste, disait le conflit est naturel, c'est un élément normal d'une société. Le problème n'est pas le conflit, le problème est la manière dont on le règle, la manière dont on le résout. Et si on le résout astucieusement, intelligemment, si on l'institutionnalise, etc., et bien finalement le conflit peut favoriser l'intégration des acteurs, et ça a été montré par la sociologie depuis plus d'un siècle. Ça n'a rien à voir avec une problématique de lutte de classe, etc. Je crois que Pierre Gattaz, qui à ma connaissance n'est pas sociologue de formation, a commis un contresens comme il peut arriver à tout le monde.
Myriam Benac, qu'est-ce que l'éducation nationale doit avoir comme rôle par rapport à l'entreprise? Est-ce qu'elle est là pour expliquer ce qu'est l'entreprise, ce qu'est son fonctionnement, gouvernement? Est-ce que l'idée, c'est de proposer, comme là aussi, je l'ai vu à nouveau hein, sur le site du ministère, de faire prendre conscience aux élèves des valeurs positives de l'entreprise? C'est à ça que ça sert l'école aujourd'hui?
Je crois que surtout l'école, lorsque j'évoquais tout à l'heure l'insertion dans la vie sociale et professionnelle, doit donner aujourd'hui aux jeunes des clés pour comprendre le monde économique, social et professionnel qui est le leur et pour pouvoir ensuite s'y adapter. Bien sûr qu'on a une vocation au final à insérer les jeunes professionnellement. Hein. On sait très bien qu'aujourd'hui, un diplômé s'insère mieux qu'un jeune diplômé et que les écarts entre les types de diplômes se creusent. Pour autant, notre première vocation, par exemple au niveau du collège, c'est tout de même de doter nos jeunes d'un socle commun de compétences, de connaissances à l'issue de l'école obligatoire.
C'est donc si je suis jeune, que je passe mon bac, enfin je suis plus jeune hein, depuis un moment, mais si je suis jeune et que je passe mon bac, si je connais bien le monde de l'entreprise, je vais trouver du travail plus facilement a priori.
Alors à l'issue du bac, tout dépend quel type de bac, parce qu'on ne peut pas parler forcément d'un seul monde éducatif, il y en a plusieurs, hein. on a le lycée professionnel, le lycée général et technologique, donc on ne peut pas non plus tout mettre dans un seul et même ensemble. C'est beaucoup plus fin que cela en termes d'analyse.
C'est quand même ça l'idée.
L'idée, c'est qu'on se dit qu'à terme, aujourd'hui, il faut qu'on puisse doter les jeunes de compétences qui vont leur permettre de s'adapter, d'être mobiles tout au long de la vie, parce qu'ils n'exerceront pas toujours le même métier, que demain, on ne sait pas quels sont les métiers qu'ils exerceront d'ailleurs, qu'on doit leur donner une formation de base extrêmement stable et performante, et qu'ensuite, effectivement, on doit les doter de compétences qui vont leur permettre d'être capables notamment d'entreprendre, par exemple, au sens très large. Ça veut dire d'être capable d'être responsable, d'être capable de prendre des initiatives, d'être capable d'être autonome, tout type de compétences qui vont leur permettre d'apprendre à apprendre tout au long de la vie, en fait.
Alors là, Arnaud Parientier, on est au cœur d'un des débats récurrents aussi au sein de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'école sert à quoi? Aux compétences, à l'acquisition de savoir?
Honnêtement, l'opposition entre savoir et compétences, elle ne me paraît pas particulièrement pertinente. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une compétence? C'est un savoir mis en action. Donc,
ça dépend ce qu'on met derrière après.
Bien entendu. Non, mais là, on ne parle pas de référentiel de compétences professionnelles. Hein. Il s'agit de compétences dans un sens beaucoup plus large que ça, bien entendu. Non, je crois que la connaissance des entreprises, ça veut dire d'abord pour les élèves la connaissance des attentes des entreprises. Des attentes des entreprises et donc la construction de parcours personnels. Moi, je vois bien comment sont mes élèves. Mes élèves comprennent assez aisément, peut-être aussi parce qu'ils sont d'un milieu très très favorisé, que le monde de l'entreprise a besoin de culture générale, mais le monde dans l'entreprise a besoin aussi de certaines compétences en présentation de soi-même, en expression, en capacité de prise d'initiative, et ils n'arrêtent pas de faire, dès la seconde, dès la première, des stages pendant leurs vacances, d'accumuler, d'enrichir leur CV, etc. Il y a maintenant, je crois, une prise de conscience de la construction de son propre devenir professionnel à travers sa scolarité.
Cette prise de conscience, Sabine de Beaulieu, est-ce qu'elle est généralisée? C'est-à-dire, si elle est du côté des élèves, est-ce qu'elle est aussi aujourd'hui du côté des enseignants et aussi du côté des entreprises? Parce que j'ai vu que vous faisiez un appel, l'association que vous représentez, la JE, pour dire aux entreprises, mobilisez-vous aussi un petit peu pour embaucher des jeunes, quoi. C'est-à-dire pour les prendre en stage déjà, et puis aussi pour les embaucher.
Oui,
c'est-à-dire que c'est pas si simple que ça, hein, de dire voilà, il faut créer des liens, mais le meilleur lien qui peut exister, c'est qu'après l'école, on trouve du travail.
Absolument. Et il y a quand même un constat qui a été révélé par notre enquête qui a été présentée lors de notre colloque en présence du Premier ministre. Et on a fait venir le Premier ministre cette année, le 16 octobre dernier, sur notre colloque Avenir des métiers, métiers d'avenir.
L'entreprise, lui, vient aujourd'hui, hein, Manuel Valls.
Mais c'était symboliquement, parce qu'il y avait quand même 600 jeunes dans la salle, et pas des moindres, des jeunes de lycée professionnel, de toute formation, des étudiants qui posaient la question, j'ai un diplôme, à quoi il sert? Il n'est pas reconnu à l'étranger, un diplôme d'ingénieur, par exemple.
Donc il faut un petit peu tirer l'oreille aussi des chefs d'entreprise?
Il faut en permanence les inciter, parce que le gros problème de compatibilité entre les attentes des entreprises par rapport à leurs compétences et les formations des jeunes suppose un véritable travail de collaboration. Et la compétitivité force aujourd'hui les entreprises à aller sur le terrain, expliquer leur métier, réfléchir à leur métier d'avenir et aux formations dont ils ont besoin. C'est un réel, une réelle prise de conscience. Il faut savoir qu'il y a à peu près 90% aujourd'hui des dirigeants qui estiment important de se doter de nouvelles compétences. Et si ces nouvelles compétences ne sont pas expliquées, accompagnées dès le départ, lorsque le jeune forme son goût, lorsqu'il réfléchit à son métier du futur, on ne va plus parler de diplôme. Madame Geneviève Fioraso, quand elle est venue au colloque, elle a parlé de compétences dans l'enseignement supérieur. Donc c'est un défi à relever. Et il faut savoir aussi que vous avez 79% des entreprises aujourd'hui qui rencontrent des difficultés à trouver des jeunes ayant les compétences attendues. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un chef d'entreprise allemand qui dirige une entreprise de joints de culasse en Limousin. Il cherche, il n'y avait pas d'apprenti quand il est arrivé là. Il cherche 10 apprentis. Il en a trouvé 2. Il y a un problème de compétences et aussi de goût des jeunes pour ces métiers et les métiers où on recrute. Donc il faut leur faire connaître et connaître aussi les conditions de travail.
Myriam Benac.
Oui, je voulais revenir tout à l'heure sur ce que disait M. Parianti, parce qu'en effet, il évoquait le fait qu'il y avait peut-être affaire à des élèves qui étaient issus de milieux sociaux plutôt favorisés et qui peut-être arrivaient plus facilement à trouver des stages. Mais nous avons en effet constaté clairement que la connaissance du monde économique et des professions constitue un facteur de discrimination entre les élèves et que le fait de pouvoir trouver ou pas des stages constitue aussi un facteur de discrimination. Donc en effet, il est absolument important que l'éducation nationale s'empare de cela aussi, pour pouvoir dans un dialogue juste avec les entreprises et le monde professionnel et économique en général, permettre aux jeunes d'être formés correctement dans les stages, avoir des offres de stages qui correspondent précisément aux formations attendues. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose que je voulais dire aussi, je ne suis pas très étonnée que la semaine école entreprise ne soit pas si connue que ça, parce qu'en fait nous faisons le constat aujourd'hui qu'il y a de nombreux partenariats qui relie l'école et l'entreprise au sens très large, mais qui sont extrêmement divers, que tous ne sont pas connus. Certains se soldent uniquement par des accords cadres au niveau national, sans déclinaison au niveau académique ou au niveau local. A contrario, il y a de nombreuses actions au niveau local qui ne sont absolument pas reliées à quoi que ce soit. Vous évoquiez tout à l'heure, monsieur, un grand nombre d'associations qui interviennent. Et donc, la difficulté que nous avons aujourd'hui, et c'est pour cela que le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur s'en est emparé, c'est la difficulté de se dire quel état des lieux pouvons-nous faire des partenariats, est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils sont efficients et comment est-ce qu'on peut les rendre globalement meilleurs pour l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, et je terminerai juste là-dessus, je voulais dire que pour montrer effectivement à quel point c'est important pour l'éducation nationale, une mission d'évaluation de politique publique dans le cadre de la modernisation publique vient d'être lancée. Son thème, c'est donc l'évaluation du partenariat de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur avec le monde économie, donc vous voyez, il ne s'agit pas uniquement de l'entreprise, pour l'insertion professionnelle des jeunes. Elle rendra ses conclusions pour la prochaine conférence sociale qui aura lieu cet été, et effectivement, elle doit permettre d'améliorer, de faire des propositions pour améliorer le partenariat dans le sens gagnant-gagnant, bien sûr, mais surtout, bien évidemment, pour les jeunes qui sont confiés à l'éducation nationale et à l'enseignement supérieur.
Alors, il y a cette question des partenariats et des relations qui existent entre l'école et l'entreprise, relations, on va dire, physiques qui est importante et qu'on a évoquée, mais s'agissant de la connaissance du monde de l'entreprise. Et puisque vous, Arnaud Parianti, vous avez travaillé sur des manuels scolaires, est-ce que ça fait partie, cette connaissance de l'entreprise, du programme des élèves qui se retrouvent en SES au lycée? Et si oui, qu'est-ce qu'on apprend de l'entreprise aux élèves? Est-ce qu'on leur apprend comment ça fonctionne, comment on monte sa boîte? Est-ce qu'on apprend plutôt une approche statistique, c'est-à-dire combien produisent les entreprises en France ou dans
Effectivement, il n'y a pas de kit du genre monter votre entreprise, mais... Encore qu'on peut essayer de faire des juniors entreprises. Non, l'entreprise joue un rôle important dans nos programmes, mais malheureusement, plutôt plus important en seconde et en première qu'en classe de terminale, où les élèves ayant plus de maturité pourraient peut-être en bénéficier davantage. Nous, ce que nous regrettons surtout, c'est que le travail que nous faisons, que nous aimons faire d'ailleurs avec les entreprises, les visites d'entreprises, faire venir des gens dans la classe, etc., il est un petit peu gêné, en particulier en terminale, par le fait que les programmes que nous avons depuis quelques années, depuis leur dernier changement, malheureusement, sont des programmes résolument abstraits, résolument tournés vers l'économie universitaire, la sociologie universitaire, très théorique, et qui donc se prêtent mal à ce genre de choses. Et nous sommes les premiers à le regretter.
Donc il faudrait quoi ? Une révision des programmes pour que ça soit davantage inscrit dans le concret ou dans l'actualité, c'est-à-dire dans les besoins de l'économie ?
L'entreprise comme objet d'étude est un objet d'étude fantastique, puisque ça combine toutes les sciences sociales qui sont dans notre enseignement, parce que c'est au cœur de la société, incontestablement. Et donc, nous aimerions pouvoir y passer plus de temps, y compris de manière relativement concrète, en prenant des exemples précis, en faisant de la pédagogie du projet, etc. Simplement, les exigences de nos programmes nous empêchent de le faire. Oui.
Il faut peut-être qu'il y ait davantage d'heures pour les sciences économiques et sociales.
Ça, je ne serais pas contre.
Au lycée, Myriam Benach.
Je voudrais effectivement évoquer le fait que l'économie est
également... Vous ne me répondez pas, là, j'ai l'impression.
Si, mais je voulais juste compléter ce qui était dit, dans la mesure où on n'aborde pas uniquement l'entreprise en SES, on l'aborde aussi dans d'autres séries, notamment dans le lycée d'enseignement général et technologique en STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, ou à partir même des enseignements d'exploration de seconde, principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, par exemple. Et je voulais dire qu'on traite là non seulement l'entreprise, mais l'organisation dans toute sa diversité pour en comprendre le fonctionnement. Bien avant, effectivement, ensuite, d'en parler au niveau post-bac.
Dans tout ce qu'on dit pour l'instant ce soir, j'ai quand même l'impression qu'on parle essentiellement des rapports entre l'école et l'entreprise pour se dire il faut faire en sorte que les élèves qui vont sortir de l'école soient employables, c'est-à-dire qu'ils puissent correspondre aux besoins de l'entreprise. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu loin de l'esprit d'entreprise ou peut-être davantage de l'esprit d'entreprendre, par exemple tel que l'évoquait François Hollande il y a un an, Sabine de Beaulieu, c'est-à-dire que peut-être justement donner le goût de l'initiative, donner le goût du risque et donner peut-être l'envie à un maximum d'élèves, non pas de devenir des employés, mais de devenir eux-mêmes des patrons.
Tout à fait. C'est la raison pour laquelle nous sommes très terrain. On n'a pas cette approche de connaissances théoriques. On vient compléter ce que fait l'éducation nationale en proposant des projets qui mettent les jeunes en situation d'agir comme dans l'entreprise. Il y a une action qui vous plairait beaucoup. Nous envoyons les jeunes de collège et de lycée en reportage dans les entreprises de leur région pour acquérir cette connaissance, qu'ils rencontrent les chefs d'entreprise, qu'il y a un retour avec ce petit reportage en classe, un jury, etc. Il y a d'autres formules comme ça, dans l'Auvergne par exemple, avec les journaux locaux, il y a le même type d'action qui s'appelle « Raconte-moi mon entreprise ». Mais il y a aussi, dans l'enseignement supérieur, par exemple, dans les formations commerciales, les étudiants d'IUT, de GC, etc., sont appelés à présenter à notre concours national les challenges de jeunesse et entreprises, des entreprises de leur région comme candidats potentiels devant notre jury national, en mettant en évidence toutes les qualités liées à l'entreprise, que sont la stratégie humaine, la sécurité et le développement, la création, la pérennisation, qu'ils étudient. Ils constituent le dossier et après, ils sont nos ambassadeurs et on organise un grand rassemblement où ces jeunes viennent avec les entreprises et les enseignants. Toujours dans cette optique de travailler ensemble en coopération.
Donc c'est quoi ? C'est d'en faire des mini-VRP de l'entreprise au sein de l'éducation nationale ?
Non, c'est pas des mini-VRP, c'est leur donner l'opportunité de rencontrer véritablement des chefs d'entreprise, de travailler avec des chefs d'entreprise sur l'organisation de l'entreprise, mais en live, puisqu'ils sont, ils doivent défendre le dossier de l'entreprise à ce concours, et d'acquérir de cette façon où ils vivent véritablement pendant 6 mois cette rencontre avec l'entreprise, des qualités, des compétences d'observer, mais en même temps d'acquérir un vécu. Parce que pour nous, ce qui est très important, c'est bien de parler de connaissances, etc., mais c'est partir du vécu du jeune par rapport à son projet. Et donc, de lui donner des actions possibles qui lui permettent de développer ce projet. On a un autre projet aussi, dans le cadre de la grande conférence climatique de Paris 2015. On a deux projets. L'un, d'organiser un concours qui développe des projets innovants de jeunes dans les lycées professionnels, qui puissent présenter et qui est trait à l'énergie, le développement durable. On fait ça avec des entreprises. On a un projet qui s'appelle IDTech en Seine-Saint-Denis et qui a énormément de succès. On essaie, nous, en complément de ce que font les enseignants, de parler aux jeunes leur langage et de leur donner des projets expérimentaux qui les mettent en situation et qui leur fassent acquérir cette connaissance pratique.
Sur les objectifs de ces liens, alors on aurait dû être quatre, je ne l'ai peut-être pas dit au début de l'émission, mais on va avoir sur ce plateau également une philosophe, Angélique Delray, bon, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, mais qui dit notamment ceci par rapport aux objectifs qui sont ceux de cette relation entre l'école et l'entreprise, qui a un regard elle assez critique en disant l'école du 21e siècle, c'est une école qui vise à former des individus employables, la finalité des politiques éducatives est économique. Est-ce que vous avez parfois l'impression, Arnaud Parianti, d'être de servir à travers votre enseignement à créer des viviers pour justement le monde de l'entreprise?
Franchement, jamais, non. Non, je crois que nous sommes une discipline d'enseignement général et ce statut n'est pas du tout remis en cause. Mais je voulais revenir sur cette question de l'esprit d'entreprise parce que c'est une expression extrêmement générale et c'est une expression extrêmement importante. C'est sûr que une des grosses faiblesses de l'école française, c'est de ne pas mobiliser l'esprit d'entreprise, de ne pas mobiliser l'initiative des élèves, leur volonté de prendre des risques, y compris d'ailleurs le risque de répondre à une question qu'on leur pose. Le risque est sanctionné, l'erreur est sanctionnée, etc.
L'esprit d'entreprise, ça peut aussi vouloir dire du bien de sa boîte. Hein. L'esprit d'entreprise, par exemple, la France Culture, ça pourrait dire, ben voilà, c'est super, tout se passe bien chez nous.
Non, là, vous glissez,
on est un peu contre l'esprit critique.
Oui, mais ça se comprend de différentes manières. Là, vous glissez vers la culture d'entreprise, c'est complètement autre chose. Pour moi, l'esprit d'entreprise dans le cadre d'un lycée, c'est par exemple les travaux personnels encadrés, c'est des élèves qui montent des projets, et on voit bien à quel point on a du mal à leur faire ça. C'est-à-dire que quand on leur dit, vous choisissez votre sujet, l'idée qu'ils sont libres de choisir leur pose problème parce que c'est complètement contraire à la culture de tous les cours qu'ils ont subis, en particulier au collège. Donc, l'esprit d'entreprise, nous le revendiquons, et en sciences économiques et sociales, aussi bien d'ailleurs qu'en économie-gestion, je crois que c'est beaucoup l'économie est tournée vers ça, nous essayons de développer ça incontestablement.
Myriam Benac et ensuite Sabine Beaulieu.
Enfin, moi, je l'appelle davantage esprit d'entreprendre. Et je voulais dire que l'objectif de développer chez les jeunes l'esprit d'initiative et la compétence d'entreprendre, ça figure clairement dans le rapport de la loi d'orientation de 2013. Donc, c'est vraiment un objectif de l'éducation nationale.
Oui, c'était même carrément de participer. L'éducation nationale devait participer au redressement productif.
Oui, oui.
Moi, quand je lis ça me fait quand même un petit peu sursauter.
Mais comment on peut. Il ne s'agit pas du tout de produire des viviers pour les entreprises telles quelles. Il s'agit de former des jeunes qui, demain, pourront à la fois être des salariés et des citoyens éclairés qui sauront prendre leurs responsabilités, qui sauront être autonomes dans la prise de décision. Il s'agit en aucun cas de s'adapter de façon simpliste aux attentes des entreprises. On le voit même dans le lycée professionnel qui lui, effectivement, a vocation à former des jeunes qui sont employables dès le bac pro. Pour autant, nous sommes extrêmement attentifs à faire en sorte qu'ils aient une vraie formation générale de base, ainsi bien évidemment que des compétences professionnelles. Parce que nous savons que demain, lorsqu'ils seront dans le milieu économique et professionnel, il faudra qu'ils soient bien entendu force de proposition au sein de leur entreprise, qu'ils fassent avancer les choses, qu'ils prennent des initiatives, mais qu'eux aussi, ils soient capables de s'adapter à un monde qui va changer en permanence.
Bon, il faudrait peut-être revoir certaines formulations, alors du coup, pour éviter certaines ambiguïtés. Sabine de Beaulieu.
Oui, l'esprit d'entreprise, ce n'est pas uniquement défendre l'image d'une entreprise, c'est au contraire participer au développement de l'entreprise, participer au développement de projets au sein de l'entreprise, c'est beaucoup plus important et il est facilité par le développement du goût d'entreprendre. Et c'est une des raisons pour lesquelles le président Gattaz a entrepris un tour de France des différents pôles universitaires, c'est pour apporter le témoignage, nous on est très témoignage d'expériences vécues de jeunes entrepreneurs, qui explique aux jeunes comment on peut devenir entrepreneur, intrapreneur, comment on peut entreprendre dans l'entreprise. Mais pour que ce goût d'entreprendre soit développé auprès des jeunes, il faut qu'ils aient une connaissance à minimum de l'entreprise, c'est de la culture d'entreprise. Donc ce n'est pas du goût pour l'entreprise dans laquelle on travaille, c'est beaucoup plus lié au projet du jeune qu'on veut impliquer dans son emploi futur comme un acteur.
Alors, il n'y a pas qu'Yvon Gattaz qui a des idées pour insuffler l'esprit d'entreprise auprès des jeunes. Il y a aussi son fils, donc Pierre Gattaz, aujourd'hui président du MEDEF, qui lui envisage peut-être de proposer des initiations dès le primaire. Écoutez-le, il était au petit journal de Canal+, le 28 octobre dernier. Enfin, écoutez-le, c'est plutôt l'animateur Yann Barthès qui s'adresse à lui, qui lui propose un petit sketch.
Page 167 de votre livre, une idée qui a retenu notre attention, vous proposez d'enseigner l'économie et l'entreprise dès le plus jeune âge. Donc à l'école, on devrait apprendre le marketing, la compta à des gamins. Eh bien, figurez-vous que nous avons rencontré une petite Ninon. Elle a 7 ans et elle fait partie de l'école Gattaz.
Ninon a fait l'école Gattaz. Grâce à cet apprentissage de l'économie, elle est devenue chef d'entreprise.
Ça fait 4 ans que j'ai monté ma boîte. Cette année, j'ai multiplié mes dividendes par 2.
Elle maîtrise déjà les règles de l'entrepreneuriat.
Nous avons besoin d'investisseurs afin de développer notre activité.
Oui, patronne.
Du marketing.
Vous brisez la concurrence, il faut qu'on gagne des parts de marché.
Oui, patronne.
Et c'est calculer une marge.
Le prix de vente, c'est de combien?
123 euros, patronne.
Et le coût d'achat?
C'est 7 euros, patronne.
Vous croyez qu'on va faire des profits avec ça?
Non, patronne. Non, patronne.
Alors,
voilà, extrait de petit journal de Canal+. Myriam Benakas, ça pourrait être une bonne suggestion à faire à Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, enseigner ou en tout cas initier à l'économie et à l'entreprise les enfants dès le plus jeune âge. Bonne idée, mauvaise idée, idée à réfléchir?
Je ne suis pas dans le Conseil supérieur des programmes qui planche actuellement sur ce sujet. Pour autant, non, ce que je dois vraiment dire, c'est que notre mission, elle est effectivement de doter d'abord les jeunes qui nous sont, qui sont avec nous au sein de l'école, d'un certain nombre de connaissances essentielles à leur vie et de compétences, bien sûr. Bon, pour l'initiation à l'économie à l'école primaire, on pourra en reparler, mais je pense qu'il y a d'autres bases à voir auparavant. Pour autant, et ce sur quoi je voulais vraiment revenir, c'est sur la nécessité, quelles que soient les disciplines, quelles que soient les matières et quels que soient les niveaux, de pouvoir petit à petit conduire les enfants et les jeunes à participer à des projets, à faire preuve d'innovation, à faire preuve de créativité, à savoir s'organiser, parce que ça, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, ils en auront besoin tout le temps, et il n'est jamais trop tôt, en effet, pour travailler là-dessus. Et sur le statut de l'erreur, je suis entièrement d'accord. Quand on voit que dans les résultats de PISA aujourd'hui, nos jeunes ont peur de s'exprimer, ont peur de faire une erreur, de se tromper et de donner une réponse. Donc ils préfèrent ne pas répondre plutôt que de donner une mauvaise réponse. Ce qui fait que, en effet, là, on a à travailler pour qu'ils aient confiance en eux et pour qu'ils prennent des responsabilités plus tard. Ça, c'est un élément pour moi extrêmement important.
Sur la question de l'âge à partir duquel on pourrait commencer les initiations, Sabine de Beaulieu et Arnaud Parianti.
Ben, je pense qu'on peut commencer très jeune. Il y a l'expérience du Canada, mais peut-être pas en parlant de gestion de comptabilité. C'est la comptabilité de la ménagère qui est à la base de tout. Déjà, dans les différentes matières, on peut apprendre les mathématiques.
De la ménagère ou du ménager, si on peut masculiniser un peu le nom. Hein,
Il n'y a pas que les femmes qui tiennent les comptes. Il y a plein d'occasions où on peut initier sans parler véritablement de gestion et de comptabilité dès le primaire, mais on peut mettre au niveau pédagogique, on peut apprendre autrement aux jeunes à compter, comptabiliser, etc. On peut les mettre aussi dans des petites situations comme ces mini-entreprises. C'est quelque chose de très productif.
On pourrait au moins avoir des profs de sciences éco au collège, non, Arnaud Parianti?
Mais théoriquement, il y a des enseignements d'économie au collège à travers la technologie, à travers l'histoire-géographie, qui constituent une toute petite fraction. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que nous soyons reconnus comme discipline à part entière en classe de seconde au lycée. Ce serait déjà un gros progrès, puisque en fait, nous sommes un simple enseignement d'exploration, parfois même le chef d'établissement refuse que les enseignants mettent des notes, enfin ça n'a aucun sens, et compte tenu de l'importance de ce que nous enseignons. Concernant la gestion, je suis un peu plus perplexe. Je me souviens encore de Henri Mintzberg, le pape de la gestion canadien, disant c'est une matière qui requiert beaucoup de maturité et qu'on ne devrait pas enseigner avant l'âge de 25 ans. Bon, peut-être que c'était aussi une provocation de sa part. Toujours est-il que j'ai quelques doutes quant à l'utilité de démarrer trop tôt. Mais l'économie au sens large et la compréhension de la société au sens encore plus large doit évidemment faire partie des enseignements fondamentaux assez rapidement.
Alors, il y a quelqu'un qui se prépare à devenir votre collègue, Arnaud Parianti. Enfin, peut-être, si elle réussit son CAPES. C'est Mina Fézi qui est au téléphone avec nous ce soir. Bonsoir, Mina.
Bonsoir.
Alors Mina, je me permets de vous appeler par votre prénom parce qu'on se connaît bien. Vous êtes restée chez nous stagiaire pendant 6 mois la saison dernière et puis vous nous avez quitté pour vous préparer à passer le CAPES et l'agrégation de sciences économiques et sociales à Lille. Puisqu'on parle ce soir finalement à la fois de la connaissance qu'on peut avoir du monde de l'entreprise et puis de l'appétence pour ce monde-là. Moi, première question que je voulais vous poser pour avoir un petit peu votre témoignage en cours de formation. Est-ce que l'entreprise, la connaissance du monde de l'entreprise, ça fait partie de l'enseignement qui vous est dispensé?
Alors, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que les enseignements pour préparer les concours sont très théoriques. c'est vraiment la culture générale des matières, donc de l'économie et de la sociologie et de la science politique, voire de l'histoire et de la géographie, tout dépend des options qu'on choisit ensuite. Mais non, c'est des enseignements très théoriques, donc si on a besoin d'avoir une très solide culture très pointue de la discipline pour pouvoir passer les concours. Donc si on connaît l'entreprise, c'est à travers les thèmes qu'on va traiter, à travers les éléments théoriques qu'on va aborder, mais pas du tout, on va pas se pencher sur les attentes des entreprises d'un point de vue pratique pour pouvoir après les transmettre aux élèves. Ça fait pas tellement partie de l'enseignement qui est dispensé pour préparer au concours.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, Mina Fezzi, mais en juillet dernier, le député UMP Bernard Perru a fait une proposition de loi, alors qu'elle n'a pas été adoptée, mais ça viendra peut-être, disant qu'il faudrait rendre obligatoire un stage en entreprise de 2 mois minimum pour les candidats reçus au CAPES en sciences économiques et sociales. D'ailleurs, il y a quelques années plus tôt, il y avait un autre député UMP qui, lui, défendait l'idée d'un stage obligatoire de 6 mois en entreprise pour les enseignants de SES. Vous seriez prête, vous, à y aller? Vous choisiriez quelle boîte? France Culture, ouais, c'est trop tard, hein, puisque vous avez déjà fait votre stage.
Dommage. France Inter, dans ce cas. Non. Après, pourquoi pas? C'est assez difficile à dire de mon point de vue, comme ça, parce que j'ai même pas encore passé le concours. Enfin, voilà, je suis plus là-dessus. Mais après, ça peut toujours être intéressant d'un point de vue pédagogique. C'est sûrement une manière d'apprendre certaines choses qu'on peut ensuite transmettre. C'est important pour les profs d'être bien au fait de ce qui se fait, de là où vont s'insérer les élèves. Après, pour l'enseignement de la matière de sciences économiques et sociales proprement dite, c'est quand même une matière qui est une discipline générale quand même, au même titre que l'histoire, au même titre que la philosophie, que les autres sciences, même les sciences dures. Donc, je sais pas si c'est vraiment honnêtement, je sais pas, je suis pas d'avis tranché sur si c'est un plus pour enseigner la matière proprement dite.
Donc, c'est important, en tout cas, pour vous, Mina Fezzi, c'est la base théorique. Je vais pas vous garder davantage parce que la liaison n'est pas excellente. Et en plus, je sais que vous êtes en cours et que vous avez fait une petite interruption pour pouvoir nous faire ce petit clin d'œil ce soir. Merci beaucoup. Et puis, bonne chance pour le CAPES. Arnaud Parianti, vous, un stage obligatoire, alors d'une durée à déterminer, mais en entreprise, ça vous semblerait utile?
D'abord, moi, j'aurais beaucoup de curiosité à aller dans une entreprise, et je suis déjà allé dans des entreprises, et ça m'a toujours beaucoup intéressé, bien sûr. Quant à le rendre obligatoire, je ne vois pas vraiment pourquoi. Enfin, nous avons une connaissance que... Ça voudrait dire quoi? Que le député considère que nous avons une connaissance purement livresque, qui est éloignée de la réalité, mais la réalité laquelle? Aucune entreprise ne ressemble à une autre, les petites entreprises ne fonctionnent pas du tout comme les grandes, et l'entreprise n'est pas un monde exotique, complètement en dehors du monde, qu'il faudrait absolument aller voir sur place pour pouvoir y comprendre quelque chose. Non, je crois pas que ça soit vraiment la problématique. Par contre, ce qu'on a vu émerger dans la discussion, c'est que finalement, les finalités de l'enseignement peuvent être assez différentes. Je me souviens que Edmond Malinvaux, l'ancien directeur de l'INSEE, avait fait un rapport sur l'économie en 1989, dans lequel il distinguait plusieurs finalités possibles, en particulier une finalité scientifique, une finalité culturelle, une finalité pratique. Et je crois qu'effectivement, l'idée est de bien équilibrer ces finalités. Et je pense que... Alors lui, il nous reprochait à l'époque d'avoir une finalité un peu trop culturelle et pas assez scientifique. Et aujourd'hui, on est allé trop loin vers le scientifique, incontestablement. Mais nous sommes dans des lycées d'enseignement général, la finalité pratique doit venir en dernier, et la finalité culturelle en premier. Dans des enseignements professionnels, la finalité pratique doit être plus prise en considération. Voilà.
S'il faut peut-être mettre davantage de pratique et de connaissances de l'entreprise, hein, puisque c'est le thème de notre discussion ce soir, du côté de l'éducation nationale, est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir dans le sens inverse? Est-ce que vous avez l'impression, Sabine de Beaulieu, que dans le monde de l'entreprise, on comprend bien et on connaît bien ce qui se passe à l'intérieur des établissements scolaires au sein de l'éducation nationale? Est-ce qu'il ne faudrait pas proposer des stages, par exemple, aux patrons dans les collèges ou les lycées?
Oui, tout à fait. Mais ça a été notre préoccupation dès le départ à Jeunesse et Entreprise, c'est d'assurer cette rencontre et de la provoquer même. On crée des binômes chef d'établissement, chef d'entreprise dans nos associations, dans les clubs de Jeunesse et Entreprise qui sont dans toute la France. C'est le BABA, je crois. C'est d'abord qu'ils puissent se rencontrer pour mieux se connaître. Concernant l'éducation nationale, ils ne connaissent pas du tout des dispositifs qui leur permettraient, par exemple, de créer des formations dans les lycées professionnels adaptés à un marché, à un temps donné. Dans l'enseignement supérieur encore plus, il y a d'innombrables formations. Et nous, ce qu'on leur demande, c'est deux choses. D'une part, qu'ils participent au module pédagogique, par exemple dans l'enseignement supérieur, au master, etc., où ils apportent leur approche concrète et des vrais cas, des cas réels d'entreprise. C'est demandé d'ailleurs par les étudiants. Et puis également qu'ils s'impliquent directement. Je reviendrai en particulier sur le témoignage poignant de Christophe de Margerie, qui a pris conscience qu'il fallait aller dans les universités. Il est intervenu à nos côtés à l'université de Ville-Tanneuse, où il a fait passer un message extraordinaire aux jeunes sur l'attention de l'entreprise à la jeunesse. Et ça a suscité ensuite des partenariats. Il est évident qu'il faut qu'il y ait un travail de coopération étroite et active.
Merci Sabine de Beaulieu, merci Myriam Benac et Arnaud Parianti d'avoir participé à cette discussion. Comme chaque jour, elle se poursuit sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Cette émission, vous pourrez la réécouter pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an. On se retrouve lundi à 18h20, nous poserons la question suivante. Les djihadistes français sont-ils récupérables ?